Exceptionnellement cette semaine, on continue avec la générosité et on aura deux parchiotes, comme la semaine dernière. Mais ça ne saurait durer, n'est-ce pas? C'est pour profiter. C'est... Après, ça s'arrête. On a donc Aharemot et Kedoshim. La paracha d'Aharemot, comme on l'entend bien, elle commence... Hachem parle à Moshe Rabbeinu, donc, après la mort des deux fils d'Aaron. Vous vous souvenez, donc, les fils d'Aaron, deux des fils d'Aaron, au moment de l'inauguration du Mishkan, ils ont décidé d'approcher le feu sur le Mizbeach. Ils ont décidé que pour les Ktoret, par exemple, c'est eux qui allaient allumer. Or, c'est effectivement comme ça qu'on fait tout au long de l'année, par la suite, mais au moment de l'inauguration, Akadosh Baruch Hu avait décidé qu'il y aurait un feu qui descendrait du ciel et qui serait, enfin, tiendrait lieu de feu sur lequel on va apporter les korbanot, etc., dans le Mishkan. Pourquoi cela? Bon, on ne peut pas savoir pourquoi exactement, mais on peut très bien entendre que, si vous voulez, on a déjà dit plusieurs fois que dans le Mishkan, comme dans le Mikdash, il y a un grand risque qu'on oublie Hachem. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est vraiment un endroit où on risque d'oublier Hachem. Pourquoi? Parce qu'on est tellement pris par la technique du service d'Hachem. Il faut courir ici, il faut faire la shrita, il faut recueillir le sang, il faut on manipule énormément de choses avec toutes sortes de règles de fonctionnement, et on peut être pris par les règles de fonctionnement et du coup on en oublie Hachem. Et donc, Akadosh Baruch Hu, au moment de l'inauguration, au moins à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu avait décidé que on verrait clairement que c'est lui qu'il est présent dans, et que d'une certaine manière, tout ce que nous pouvons donner à Hachem, nous ne pouvons le donner qu'à partir du moment où lui nous l'a préalablement donné. Nous n'avons rien qui ne viendrait d'Hachem que nous pourrions lui donner. Dans la Gemara, on dit, on met ces paroles dans la bouche d'Hachem. Hachem dit, est-ce que vous avez mis des mezuzot à vos maisons avant que je vous ai donné des maisons? Est-ce que vous avez mis des tzitzit à vos vêtements avant que je vous ai donné des vêtements? En fait, tout ce que nous faisons, nous ne le faisons en réalité que à partir de ce qu'Hachem nous a donné. On est toujours un peu dans la situation de l'enfant qui va offrir un cadeau d'anniversaire à sa maman. Sa maman le prend, elle achète le cadeau et puis l'enfant va donner le cadeau à la maman. Donc il y a toujours cette idée que, au fond, ce que nous pouvons donner, c'est uniquement à partir de ce qu'Hachem nous a préalablement donné. Et donc, étant donné qu'on apporte des korbanot dans le Beit HaMikdash, ou dans le Mishkan en l'occurrence ici, on pourrait être tenté de penser que nous donnons vraiment quelque chose à Hachem. Alors, c'est vrai, on donne parce qu'Hachem nous a préalablement donné. C'est vrai qu'à partir du moment où il nous a donné, c'est devenu le nôtre. Et qu'on pourrait le garder. C'est vrai, on pourrait le garder pour soi. Mais quand on le donne, il faut bien comprendre que, au fond, ce qui nous est demandé, ça n'est pas de donner quelque chose qui vient initialement et totalement de nous. Mais, d'une certaine façon, ce qui nous est demandé dans le monde, c'est de faire quelque chose de ce qui nous a été donné. Je te donne des choses et je regarde ce que tu fais avec ce que je t'ai donné. Et c'est ça, la réussite de quelqu'un, c'est, elle ne se mesure pas en réalité avec ce qu'il donne, par exemple. Parce que, évidemment, par exemple, dans le quantitatif, tout le monde comprend que quelqu'un qui a beaucoup, il peut donner plus que quelqu'un qui a peu. Mais il n'en a pas plus de mérite pour autant. Quelqu'un qui a, par exemple, quelqu'un qui a hérité de ses parents une somme très importante, il donne beaucoup de tzedaka. Est-ce qu'il a plus de mérite que celui qui n'a rien hérité, qui a très peu pour lui, mais qui néanmoins fait l'effort de donner lui aussi de la tzedaka? Ça ne se mesure donc pas à la quantité, mais à l'effort. Le problème, c'est le travail qui est fourni. Quel travail tu fournis? Et donc, ce qu'il faut avoir présent à l'esprit, c'est qu'effectivement, je donne, etc., quand Hachem m'a demandé de donner, là dans les corbanotes, par exemple, on va les approcher, ces corbanotes, mais en fait, c'est retourner à Hachem des choses qu'il m'a données. Et pour qu'on n'oublie pas que c'est de ça qu'il s'agit, alors Hachem avait décidé qu'à l'inauguration, les hommes n'allumeraient pas le feu, mais qu'il y aurait un feu qui viendrait du ciel. Et les fils d'Aaron ont décidé qu'ils voulaient passer, dire, ils ont pensé, nous on a bien compris tout ça, on sait tout cela. Ils ont voulu passer directement à la vitesse de croisière, en quelque sorte. Ils ont voulu sauter la période de mise en marche. Ils ont voulu se comporter, bonsoir. Ils ont voulu se comporter comme on allait se comporter par la suite. Et ils en sont morts. Alors, je résume, c'est un peu plus compliqué que cela, dans la mesure où, quand ils sont morts, Moshe Rabbeinu a dit à son frère, il a dit à Aaron, il lui a dit, je savais qu'à l'inauguration du Mishkan, Akadosh Baruch Hu avait dit, Bikrovay et Kadesh, je serai sanctifié par ceux qui me sont le plus proche. Et Moshe a dit à Aaron, je croyais que ce serait toi et moi. Je pensais que c'est nous qui allions disparaître à ce moment-là. Et puisque ce sont tes fils qui sont morts, ça veut dire qu'en réalité, ils étaient plus grands que nous. Ils sont plus proches que nous d'Hachem. Moshe Rabbeinu, il ne raconte pas n'importe quoi à Aaron pour le consoler. S'il lui dit, je pensais comme ça, et que donc je vois qu'ils étaient plus grands, c'est qu'effectivement, Nadav et Avihu, les deux fils d'Aaron qui sont morts ici, étaient des gens qui étaient plus grands. Ça nous est difficile de comprendre exactement ce dont il s'agit, mais plus grands que Moshe et Aaron. Ils n'étaient pas plus grands que Moshe en ne voix. La prophétie de Moshe Rabbeinu, elle a un statut complètement à part, parce qu'elle est la Torah. La prophétie, il est un prophète, mais sa prophétie est totalement différente de toutes les autres prophéties, elle est Torah. Mais ça, c'est pas là la grandeur de Moshe. Comme prophète, il est le plus grand, mais la grandeur dont parle Moshe Rabbeinu et celle dont il parle quand il parle de celle d'Aaron, il est en train de, c'est pas qu'il se dénigre, mais il dit, visiblement, eux étaient plus grands. Ils ont disparu, c'est un désastre. C'est vrai, c'est un désastre. Mais probablement que leur grandeur leur a fait penser qu'ils pouvaient aller plus vite que la musique, en quelque sorte. Ils le voulaient pour le bien du clan, c'est pas pour eux-mêmes. Ils pensaient, ça y est, ça suffit maintenant, le peuple peut fonctionner comme adulte. On n'a plus besoin. Et c'est d'ailleurs ce que pensaient Moshe et Aaron. Enfin, Moshe Rabbeinu, quand il dit à Aaron, je pensais que c'était toi et moi qui allions disparaître, je vous ai déjà dit plusieurs fois, c'est Moshe Rabbeinu pensait que lui et Aaron étaient en quelque sorte, maintenant, le bâti du clan d'Israël, comme le bâti d'un vêtement. Ils pensaient que eux avaient été nécessaires pour monter le clan d'Israël, comme le bâti est nécessaire pour monter un vêtement. Mais qu'une fois que le vêtement est terminé, il faut enlever les fils blancs. Et donc ils pensaient que d'une certaine manière, pour le peuple, il était nécessaire que Moshe et Aaron disparaissent, parce qu'ils étaient un rappel permanent de l'état d'enfance du clan d'Israël, de l'état d'impuissance, de la faiblesse du clan d'Israël initial. Et que maintenant, à ce moment-là, c'était une forme d'accession à une certaine forme de maturité pour le peuple. Pensez, ben maintenant il faut qu'on disparaisse. Et Hachem a décidé autrement, parce que, semble-t-il, les hommes ont fauté d'une certaine façon. Ils ont fauté, hein, Nadav et Aviou. Après cette mort-là, c'est ça qu'on parle ici. Alors Moshe parle, enfin Hachem parle à Moshe et il lui dit: toi, Moshe, tu vas parler à Aaron. D'abord, El Aaron Achicha. Parle à Aaron, ton frère. Dire à Moshe Rabbeinu qu'il doit parler à Aaron, son frère, c'est un peu redondant. Tout le monde sait qu'Aaron est le frère de Moshe. Et Moshe est bien placé pour savoir qu'Aaron est son frère. Donc, quand il lui dit d'abord El Aaron, on n'a pas besoin de préciser, a priori, Achicha. Et donc le Achicha ici, il faut se demander qu'est-ce que cet Achicha vient nous dire ici. Et le pasuk dit « Ve'al yavo bechol et el hakodesh » Dis-lui à ton frère Aaron qu'il ne vienne pas el hakodesh, c'est-à-dire « ibet la parochet » qui n'entre pas dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, El Penei HaKaporet, face au Kaporet. Le Kaporet, c'est le couvercle du Aaron HaKodesh. La boîte dans laquelle se trouvent les tables de la loi, les Luchot, se trouvent les brisures des premières tables. Les brisures des premières tables, les secondes tables, et à la fin il y aura aussi le Sefer Torah que Moshe a écrit. Et vous vous souvenez, cette boîte là, c'est une triple boîte. C'est une boîte qui est composée de trois boîtes l'une dans l'autre. Si on part de l'extérieur, on a une boîte en or, une boîte en bois, bonsoir, et une autre boîte en or. Donc c'est or, bois, or, et par-dessus il y a un couvercle qui est en or, et pris dans la matière de ce couvercle il y a les deux fameux kruvim, les deux chérubins. Donc nous qui sommes des adeptes d'aucune représentation, dans le Kodesh HaKodashim nous avions deux chérubins qui se faisaient face et qui étaient mobiles sur leur socle, bien que le socle soit pris dans la matière, donc du couvercle. C'est un peu difficile de s'imaginer comment ça fonctionnait, mais en tout cas ils étaient susceptibles de pivoter. Et quand le clan d'Israël se comportait bien par rapport à Hachem, alors les deux kruvim se faisaient face. Ces kruvim, ils montrent l'état de relation, de la relation entre Hachem et le clan d'Israël. Le face-à-face, c'est quand, en quelque sorte, le clan d'Israël reçoit toute la lumière d'Hachem, parce qu'il est parfaitement en phase avec Hachem. Si le clan d'Israël se détourne, alors Hachem se détourne du même angle. On se retrouve donc détourné du double de l'angle. Et donc il lui dit... Alors maintenant, il faut aussi que vous sachiez, François, il faut savoir que dans ce Kodesh HaKodashim, vous avez vous avez le, donc, entre autres, le Aaron et la voix d'Hachem. Quand Hachem parle à Moshe Rabbeinu, il parle et Moshe Rabbeinu reçoit cette voix comme si elle émanait d'entre les Kérouvim, entre les deux chérubins. C'est de là qu'émane la voix que Moshe Rabbeinu entend quand il entre dans le Kodesh, quand il entre dans le Beit HaMikdash pour recevoir la Torah. Sur la table, vous avez les textes devant vous, non? C'est pas des... Ça sert pour marcher. Et alors, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, dit à Aaron qu'il n'entre pas, qu'il ne vienne pas, qu'il n'entre pas du tout. Mais, bezot yavo Aaron et la Kodesh. Mais Aaron, quand il devra venir dans le Kodesh, c'est ici le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, il viendra bezot, avec ceci. Qu'est-ce que c'est que le ceci? Befar ben Bakar, il viendra avec un taureau, en khatat, korman khatat, donc un taureau qui viendra expier les fautes. Ve'ail, et un bélier, le hola, qui viendra en holocauste. Et on nous dit quel vêtement il portera. Ktonet bad kodesh ilbash, mirnese bad iwal besaro, bavnet bad yargob, mitznefet bad itznof, bigde kodeshem verachatz v'amayim et besaro olvesham. Et il mettra des vêtements de lin. Donc il y avait ce. Il était entièrement vêtu de lin. Avant de mettre les vêtements, il se sanctifiera. Donc, il s'immergera dans un mikvé pour se sanctifier, et après, il mettra ses vêtements. Et à part ça, il apportera comme korbanot cette fois-ci, non pas de sa part à lui, mais au nom du Klal Israël, il apportera les deux fameux boucs, deux boucs identiques, comme Khatat. De nouveau, ici, il vient apportera Shnei Seirim, Seire Izim, le Khatat, Ve'ay Lechad le Ola, et de nouveau en plus, un bélier comme Ola. Donc on nous dit qu'Aaron devra approcher ses korbanot, et puis ensuite il prendra les deux boucs, et on va tirer au sort. Entre ces deux boucs, là, je suis donc au verset Zayin, ici. Velakach et shnei asirim ve'emid otam lifnei Hashem petach ol moed, natan Aaron al shnei asirim goralot. On va tirer au sort. Un des deux boucs sera approché sur l'autel, sur le misbéach, et l'autre, celui-là, écrit Aaron et asair asher ala alav agoral Hashem v'asau chatat. Ve'asair asher ala alav hagoral la azazel. Il y a un autre, l'autre bouc, on l'enverra, ça s'appelle la azazel. Celui-là, il restera vivant devant Hachem. Le chaper alav, le shalach oto la azazel amidbara. Il va servir à la kapara, tout de suite précisé. Et on l'enverra dans le désert. On va l'envoyer avec quelqu'un qui va le précipiter d'une colline. Et ce bouc-là, va mourir, ses membres vont se séparer, il va éclater en quelque sorte. Donc ça c'est son, et puis ensuite bon, toute la suite est décrite, tout ça vous le connaissez, tout ça c'est ce qu'on appelle la avoda de Yom Kippour, c'est le processus de kapara qui a lieu à Yom Kippour. Alors, pour revenir sur ce achicha initial, on s'était demandé pourquoi est-ce que Hachem dit à Moshe Rabbeinu de parler à Aaron achicha, Aaron ton frère, comme si on avait besoin de préciser que Aaron était le frère de Moshe. Ça, tout le monde le sait. Alors, c'est une chose assez intéressante. Dans, il y a un commentaire à l'Achik de comme un midrash halachique, si vous voulez, ça s'appelle Torah de Kohanim. Et un des grands commentateurs de ce commentaire-là, de ce midrash, c'était le Ravet de Poskier, c'était un grand maître qui était à Poskier, en sud de la France, et qui est l'interlocuteur, enfin, ou l'opposant standard du Rambam, de Maïmonide. C'est-à-dire dans le Yad, dans l'ouvrage du Rambam, qui s'appelle Yad Chazaka, où c'est le code que le Rambam a écrit, il y a les remarques critiques du Ravet. Et souvent, le Ravet s'oppose à Rambam, etc. Et là, le Ravet dit, il a commenté d'autres choses. Le Ravet, c'était aussi un géant, c'est des gens du XIIIe siècle, des tout grands maîtres. Et le Ravet dit une chose ici très étonnante. Il dit, c'est marqué « Achicha » pour te dire que ton frère ne peut pas venir à tout moment dans le Kodesh HaKodashim. Mais toi, mon cher, tu peux venir quand tu veux. Parce que le Ravet pense que ce que je vous ai dit, que la voix que mon cher Rabbeinu entend quand il entre dans le Mishkan pour prendre conseil, pour entendre ce qu'Hachem veut lui dire, que cette voix, elle émanait, je vous ai dit, d'entre les deux Krouvim, entre les deux chérubins. Alors le Ravet pense, elle émane d'entre les chérubins et mon cher entre et il est face au chérubin, il est de l'autre côté du rideau, il est dans le Kodesh HaKodashim. Alors les commentateurs, les autres, le Tzof Napane, le Rogat Shover, etc., grâce au Shalom, c'est impensable, une chose pareille. C'est sûr que Moshe Rabbeinu entrait dans le Mishkan, mais jamais dans le Kodesh HaKodashim. Mais il n'empêche que le Ravet pense autrement que ce que tout le monde pense, puisque tout le monde sait, tous les enfants savent, personne n'entre jamais dans le Kodesh HaKodashim, sauf le Kohen Gadol, le jour du Yom Kippour. D'après le Ravet, ce n'est pas vrai. Mon cher Rabbeinu, il entrait tout le temps. Dès qu'il avait quelque chose, dès que Hachem lui indiquait qu'il devait venir pour recevoir la parole d'Hachem, il entrait dans le Kodesh HaKodashim d'après le Ravet. Je ne peux pas en dire plus, parce que je ne sais pas plus, si vous voulez. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'a priori, le Ravet, il voit ça comme une dracha, à cause de ce Achicha, parce que sinon, on ne sait pas quoi faire de ce Achicha. Donc lui, il lit Achicha lo yavo. Ton frère, il ne viendra pas. Sous-entendu, si on dit ton frère ne viendra pas, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui va venir. Qui d'autre? C'est Moshe. L'autre, c'est Moshe. Moshe, lui, il peut entrer. Mais c'est pas le... Si vous voulez, c'est pas la position majoritaire dans le cas de ça. Et donc, il n'entrait pas. Le jour du Yom Kippour, c'est le jour du Kohen Gadol. C'est lui qui fait tout le travail. Nous, on est relativement passifs. Au temps du Beit HaMikdash, les Bnei Israël sont très passifs le jour du Yom Kippour. Ils jeûnent, évidemment, mais toute la Avoda, ça se fait, c'est le Kohen Gadol qui l'a fait. Parce que, comme vous l'avez vu, on a dit, il y a ces deux boucs. Alors, sur le... Il y a un bouc qui est approché comme un korban khatat, c'est-à-dire comme un korban qui vient pour expier les fautes, mais le deuxième, il vient le chaper. Il vient pour la kapara. Alors, vous savez probablement que le Kohen Gadol fait à Kippour trois vidouim, trois confessions. Il fait une confession en son nom, une au nom des Kohanim et une au nom du clan Israël, qui est toujours, disons dans notre langage, c'est Hachamnu, Bagadnu, Gazad, etc. La confession standard. Il fait en son nom, au nom des Kohanim, de sa tribu donc, et au nom de tout le clan Israël. Et on, en quelque sorte, on charge, on dit de tous les péchés d'Israël, le fameux Seir la Azazel, en français on appelle ça le bouc émissaire, D'accord ? Et on l'envoie mourir, en fait. On l'envoie se disparaître. Et c'est une opération très, très difficile à comprendre. Qu'est-ce que c'est ? Parce que dans le texte, on voit bien, il y en a un, on tire au sort, et il y en a un qui est un goral l'Hachem, on tire au sort, il tire, lui il sort, toi tu vas, c'est pour Hachem, c'est-à-dire tu vas sur l'autel, et l'autre, vegoral echad la azazel. Et donc on aurait presque l'impression que c'est en parallèle. C'est comme si on disait, il y a l'Hachem d'un côté, Azazel, Chas v'Shalom de l'autre côté. Et comme si l'autre était un corban pour autre chose que pour... Il y en a un corban pour Hachem et un... C'est pas vrai, mais comme si c'était un corban pour Azazel. Comme s'il fallait envoyer un autre corban à quelque chose d'autre. C'est évidemment faux. Mais on doit quand même s'arrêter sur cette ambiguïté du texte. D'accord, qui nous donne un peu à comprendre, enfin qui tendrait à laisser entendre qu'il y a quelque chose de ce genre-là, qui est évidemment quelque chose de faux, mais c'est étonnant que le texte introduise cette ambiguïté. Alors le Ramban et d'autres essaient de nous donner à comprendre ce qui se joue là. Je veux rapporter un petit peu ce chose que j'ai, je crois, déjà rapporté. Mais bon. On va revenir sur une autre situation. Lorsque Yitzhak Avinu a appelé Esav, pour lui donner les brachot. Vous savez bien ce qui s'est passé, Rivka a entendu, elle a substitué Yaakov à Esav, ça vous connaissez. Mais, ce n'est pas ça qui m'intéresse maintenant, c'est que quand il a appelé Esav, il lui a dit, tu vas aller à la chasse, et tu vas me ramener du gibier, et tu vas le préparer comme je l'aime, etc. Quand j'étais plus jeune, très longtemps, j'étais toujours gêné par ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Le patriarche du clan d'Israël, quel est son problème? Il est à la, comme il dit lui-même, je vais bientôt mourir. Le patriarche du clan d'Israël, quel est son... Il faut que je mange un bon morceau. On a du mal, quoi, quelque part. Je comprends très bien que c'est bon, un bon morceau, c'est vrai, jusque-là je le suis, mais on a l'impression que, et la Torah doit nous le raconter, la Torah ne nous raconte pas ce qu'il mangeait au petit déjeuner, elle raconte que non, il lui dit, il aurait pu lui dire, écoute, amène-moi à manger et je te bénirai. Il dit, tu vas y aller, tu vas te préparer comme je l'aime, etc. Après on nous dit, Rivka, qui substitue Yaakov, elle sait exactement comment il faut préparer ça pour Yitzhak, donc elle va le préparer, etc. Il va manger. Alors, en fait, j'avais un peu entendu une partie des choses de mon maître à Volbe. Yitzhak Avinu, à ce moment-là, il a besoin de toute sa tête, si on veut parler comme ça, il a besoin d'être complètement libre pour donner ses brachot. Ses brachot qu'il veut donner, c'est d'une certaine façon, ça se présente comme les brachot que lui-même a reçus de son père. Donc, on est dans la transmission exacte des valeurs, quoi, du clan Israël. À ce moment-là, Yitzhak pensait que c'est... Pour lui, d'une certaine façon, la chaîne, c'était Avraham, Yitzhak et Esav. peut-être Esav et Yaakov en même temps, mais Esav était dedans, il était dans le, il était candidat en quelque sorte. Et pour ce faire, il fallait obtenir que le Yetzer Hara lui lâche les baskets en quelque sorte. Il fallait obtenir qu'il soit vraiment libéré. Que le corps n'ait plus aucun désir pendant un certain temps pour qu'il puisse être presque entièrement spirituel. Donc pour ce faire, il fallait donner au corps quelque chose qui l'apaise vraiment. Donc il fallait lui donner quelque chose d'excellent pour que pendant un certain temps, Yitzhak soit libéré de toute, presque de toute contingence matérielle, parce que c'est comme s'il avait saturé le côté corps. Et donc maintenant, il n'y a que l'esprit qui est là, il n'y a que son roi, et à ce moment, il va pouvoir donner la bracha. Ça, c'est un point fondamental qui se trouve dans les drachot du Ran, un des grands maîtres aussi sfarad d'avant l'expulsion des Juifs d'Espagne. Il va dans ce sens-là. Il explique ça pour Yaakov. Et ici, c'est la même chose, en fait. À Kippour, on veut faire quelque chose d'assez énorme. Kippour, c'est le jour où, d'une certaine façon, toutes les fautes du clan Israël lui sont pardonnées. Pour que on obtienne ce pardon, il faut apaiser tout ce qui pourrait s'opposer à cette démarche presque angélique. C'est presque angélique, on ne mange pas, on ne met pas de chaussures, etc., on ne boit pas, etc. On ne vit pas pleinement comme des hommes ce jour-là. On vit dégagé des contraintes et des habitudes matérielles du corps. Dans le monde, il y a l'équivalent du corps, c'est-à-dire il y a le matériel, la matérialité des choses. Cette matérialité des choses, elle aussi, elle doit être apaisée d'une certaine façon. Et ce qu'on envoie à Azazel, c'est pour ça. C'est comme si on voulait saturer l'autre côté, en fait, ce qui pourrait nous empêcher de faire là. Et c'est pour ça qu'il faut que les deux boucs soient exactement pareils. Et on tire au sort pour que, en quelque sorte, l'autre côté, en fait, ne vienne pas dire, mais nous, on n'a pas reçu le même bouc, on n'a pas reçu le bon. On tire au sort. On les a achetés. On a acheté deux boucs aussi identiques que possible, aussi semblables que possible, plutôt. Et on tire au sort. Donc, ce que tu as, c'est pas qu'on a choisi pour Hachem quelque chose de meilleur et on t'a donné le deuxième choix. Alors, vous voyez bien que je parle comme si on lui parlait à Azazel, comme si... Mais c'est un peu comme ça que ça se présente. Il s'agit de saturer l'autre côté. Il s'agit d'obtenir un clan Israël aussi spirituel que possible à ce moment-là. Alors, on va dégager toutes les fautes. On va lui faire porter ses fautes, en quelque sorte, à cet animal. Et puis, on va l'envoyer dans le désert, où il va mourir. On va se débrouiller pour qu'il meure. Donc, on va le faire disparaître. Mais ce n'est pas du tout qu'on est en train de sacrifier un animal aux divinités du désert, ou quelque chose comme ça. Mais, il y a de l'ambiguïté là-dedans. Tel que le texte le présente, il y a cette ambiguïté, c'est presque un malaise qu'on a à lire ce texte, parce qu'on est obligé de travailler, de dire, on est sur le fil du rasoir. Un tout petit peu à côté, Azazel, oui, mais alors, est-ce que c'est Azazel, ce ne serait pas une divinité, quoi, quelque part, parce que le texte Azazel, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, on voit là Azazel. Donc, ceci c'est dit, et alors c'est curieux, s'est présenté. Pourquoi est-ce que ça commence après la mort des fils d'Aaron? Qu'est-ce que la mort des fils d'Aaron a à voir avec cette procédure? Est-ce que si les fils d'Aaron n'étaient pas morts, alors Aaron aurait pu entrer tous les jours dans le Kodesh HaKodashim? Quel est le lien entre cette remarque? On n'est pas en train de raconter la mort des fils d'Aaron. On mentionne qu'ils sont morts, mais on en a déjà parlé. Alors, pourquoi ici, tout à coup, mentionner ça? C'est... Rashi dit comme ça, sur le premier verset. Vaïdaber Hashem el Moshe, achre mot shnem ne Aaron, etc. Matamud lomar, qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Rashi, dans la parenthèse, on ramène Sfarim Acherim, d'autres versions qui disent Enanu yodim mane marlo bedibur rishon. On ne sait pas qu'est-ce qu'il lui a dit. C'est marqué Vaïdaber Hashem el Moshe achre mot shne bnei Aaron bekorbatam lifnei Hashem vayomutu, et on ne dit pas ce qu'il lui a dit. Il lui a parlé. Deuxième verset, vayomer Hashem. Hashem a dit. Donc dans le premier verset, il n'est pas fait mention du tout du contenu du dibour de la parole d'Hashem à Moshe Rabbeinu. On ne sait pas. C'est pas ce qu'il lui a dit. On sait qu'il lui a parlé. Le verset dit quand il lui a parlé. Mais on ne sait pas ce qu'il lui a dit. Alors il ramène que Aya Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Elazar ben Azaria, il donnait un machal, il donnait une parabole. Et il disait le cholé shenichnas etzlo rofe. C'est un malade. Le médecin vient chez lui, il lui dit ne mange pas une nourriture qui soit froide et ne te couche pas dans les courants d'air, etc. Et ensuite, il y a un autre malade qui vient et lui dit la même chose. Et seulement il le justifie. Il lui dit, de tel sort, si tu fais ça, tu risques de mourir comme tel et tel est mort. Donc au deuxième, il lui donne une explication. Le premier, il lui dit, ne fais pas ça, point barre. Le deuxième, il lui dit, ne fais pas ça, parce que sinon, il y aura les conséquences qu'il y a eu pour toi. Alors, évidemment, on va dire que celui auquel il a donné des explications, dans lequel il lui a dit, tu sais que si tu ne fais pas ce que je te dis, tu risques de mourir comme tel et tel en est mort, de ce dont tu souffres maintenant. Bon, évidemment, celui-là lui a parlé de façon plus efficace. C'est pour ça que, dit-il, on nous dit « Acharei mot shnei bnei Aaron » après que les fils d'Aaron soient morts. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le Rashi sur le deuxième verset dit, Hachem a dit à Moshe, dis-lui de ne pas entrer à tout moment, « Shelo yamut kederer shemetu banav » pour qu'il ne meure pas comme ses fils sont morts. Si on avait déjà dit préalablement à Aaron de ne pas entrer. Alors on le met en garde, on lui dit, transgresse pas, parce que sinon, tu vois bien, tes fils, ils ont transgressé, et du coup, ils en sont morts. Mais a priori, on lui a jamais dit à Aaron qu'il fallait pas entrer, pour qu'on le remette en garde. Ça, c'est pas une très grande question, parce que, au fond, les fils d'Aaron, il ne leur a pas été dit ne le faites pas. Le verset nous dit qu'ils ont apporté un feu de l'extérieur, c'est-à-dire que c'est les hommes qui apportent ce feu, un feu qui n'avait pas été prescrit. Il ne leur avait pas été prescrit d'amener le feu. Sous-entendu, si on ne te le prescrit pas, alors tu ne dois pas l'apporter. Parce que, ça c'est une règle très importante dans le fonctionnement du Mishkan puis du Beth Amikdash, c'est que dans le Beth Amikdash, on n'est pas libre du tout. On est obligé de faire exactement ce qui est prescrit. Je vais donner un exemple. Par exemple, imaginez que quelqu'un est un magnifique diamant. Il veut le donner au Beth Amikdash. Seulement, il voudrait que ce diamant soit, par exemple, enchâssé dans le caporet, dans le fameux couvercle de la... Si on le faisait, c'est équivalent à l'idolâtrie. Pourtant, dans les autres mitzvot, quand je veux embellir une mitzvah, on dit c'est très bien, magnifique, tu as bien raison. Vous voulez faire un très beau Shabbat et rien ne vous empêche d'acheter de beaux bougeoirs, d'acheter une belle nappe, d'acheter une nourriture. On peut embellir, on a le droit d'embellir. Là, il a voulu embellir, Hachem nous a dit qu'il faut construire le Haron, et bien voilà, je vais embellir. Là-dedans, on ne peut pas. Comme si, c'est pas seulement comme si, c'est comme ça, c'est que, au fond, c'est presque, il faut entendre, que le Beth Amikdash ou le Mishkan, il faut l'entendre presque comme une tolérance. Si on l'entend comme une tolérance, alors je tolère exactement ça. Si tu en fais plus, on est du côté de l'idolâtrie. Pourquoi est-ce qu'on est du côté de l'idolâtrie? Parce que l'idée même qu'il y ait une résidence pour Hachem est une idée folle. C'est une idée folle. Qu'est-ce que ça veut dire une résidence pour Hachem? D'ailleurs, quand Hachem a dit à Moshe, tu vas me construire une résidence, Moshe lui a dit, Hachamaim, Ushme Hachamaim, lo yichal kelucha. Les cieux ne peuvent pas te contenir, et moi je vais construire, tu me demandes de construire un petit truc qui va où tu vas résider, c'est un non-sens. Hachem lui a dit, toi tu fais ce que je t'ai dit, moi je me débrouille pour être là, pour être présent. Et on sait que la présence d'Hachem, elle n'est pas dans tout le Mishkan ou dans tout le Beth Amikdash. D'accord? Dans le Kodesh HaKodashim, il y avait le Haron, comme je vous ai dit. Et dans le Mishkan, le Haron, vous savez bien que le Mishkan, il était en kit, en quelque sorte. On pouvait le transporter, il fallait pouvoir le transporter, il fallait le démonter pour le transporter. Et le transport du Haron se faisait avec des barres qui passaient dans des anneaux. Sur le Haron, il y avait des anneaux. Dans les anneaux, on passait des barres. Et les transporteurs portaient le Haron en posant les barres sur leurs épaules. Et la halakha est que ces barres-là, on ne les enlevait pas, même quand on campait, même quand on construisait le Mishkan. C'était pas seulement des barres de transport, mais elles restaient en permanence sur le Haron. Les barres qui transportaient, qui servaient à transporter d'autres choses, on les retirait parce que c'était des barres de transport. Quand la chose était là, on n'avait pas besoin des barres quand on campait. Mais le Haron, lui, il reste avec ses barres en permanence. Et ces barres, elles sont... Vous avez le bête, on a le Kodesh HaKodashim dans lequel il y a le Haron, il y a les barres, et puis devant les barres, il y a un rideau qui sépare le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim, du Kodesh, de l'autre partie du Mishkan, de la résidence. Et les barres, elles sont visibles, elles sont comme deux petites pointes dans le rideau. On voit la trace des pointes des barres dans le rideau. On dit que la présence divine, elle est entre ces barres. Hachem, pas seulement dans le Mishkan, mais il est mitztamtzem, c'est-à-dire il se concentre, elle est entre ces barres. C'est ça, la tradition, c'est enfin, le, donc la Kabbalah qu'on a, c'est que la présence divine, elle est entre ses barres. Comment est-ce que... De toute manière, on n'a aucune idée, donc... Mais malgré tout, l'idée d'avoir une résidence pour Hachem, c'est quelque chose d'étrange. Et donc, on ne peut faire que ce qu'Hachem nous a dit de faire. Là-dedans, les hommes ne peuvent pas avoir d'initiative du tout. Parce que sinon, c'est comme si nous pouvions gérer la présence divine. Nous, notre façon de gérer la présence divine, c'est de faire ce qu'Hachem nous a demandé. Hachem dit, si vous faites ça, je suis là. Maintenant, comment il est, ce n'est pas notre problème. Donc, il y a cette présence divine dans le Mishkan. Oui, c'est ça. C'est un endroit où la tolérance est zéro. Alors, non, on ne peut pas dire ça parce que on va voir que c'est le lieu où on va... Il n'y a pas de miséricorde au sens où il faut que tu joues exactement comme c'est prescrit. Mais c'est le lieu de la prière aussi. Et dans cette prière, il y a entièrement de la miséricorde. Enfin, c'est-à-dire le fait de recevoir, d'accepter la tefila, la prière, et de pardonner... C'est vraiment cette procédure de pardon, c'est bien entendu une procédure qui est pleine de rachamim. Seulement si on fait ça. Si tu fais autrement, hein, ça ne peut pas marcher. Non, non, c'est écrit dans le pasouk qu'on ne les enlève pas.
Si on ne les enlève pas, c'est qu'on va toujours le Mishkan avec. Pourquoi on peut penser que c'est un ensemble?
Quoi? Qu'est-ce qui fait un ensemble?
Des barres?
Non, mais on ne pense pas que c'est un ensemble, puisque on te dit que ce sont des barres pour tenir le Aaron. Sûrement pas anodines. Elles sont. C'est pas. Nous, on doit considérer que, comme la voix vient entre les Krouvim, la présence divine, elle est entre les bas. Alors, bien entendu, c'est pas du tout vu comme entre les barres, c'est entre ce qu'on voit des barres de l'extérieur. C'est-à-dire la trace sur les rideaux des barres. C'est vu comme une image maternelle, dans la mesure où on dit que cette trace sur les rideaux, c'est comme des seins de femme. Donc c'est considéré comme, de ce point de vue-là, comme une image maternelle. En fait. Et donc, on disait, Aaron, lui, il ne peut pas entrer dans tout le monde. Il ne peut venir qu'avec toute la procédure de Kippour. Mon cher Rabbeinu, d'après leur arrivée, il entrait tout le temps pour parler à Hachem, pour parler et entendre ce que Hachem avait à lui dire. D'après les autres, mon cher Rabbeinu n'entrait pas, mais il savait, il percevait que ça venait de là-bas, que ça venait d'entre les Krouvim, mais il n'était pas face aux Krouvim, il ne les voyait pas. Donc, on disait, toute cette construction-là, c'est une construction très délicate. Toute l'affaire du Mishkan, c'est une affaire très délicate. C'est aussi très délicat parce que, dès lors qu'on dit qu'Hachem réside dans le Mishkan, alors nous, humains, nous entendons que si il réside ici, alors il ne réside pas là. Donc il ne résiderait pas en dehors du Mishkan. S'il ne réside pas en dehors du Mishkan, alors la tentation est très grande de dire, bon ben, on peut se conduire comme on veut en dehors du Mishkan. L'essentiel, c'est de bien se conduire dans le Mishkan, là où il y a la présence divine. Or, le leitmotiv du Tanakh, enfin du Nar, c'est qu'Hachem n'arrête pas de dire au Bnei Israël, à travers les prophètes, qu'il n'a rien à faire de tous les korbanot que les Bnei Israël approchent, alors qu'ils se conduisent comme des crapules à l'extérieur. Parce qu'en réalité, c'est encore plus ambigu que cela. Parce que quand Hachem a prescrit de construire le Mishkan, il a prescrit, vous allez me faire un Mikdash, Veshachanti Betocham, et je résiderai parmi eux, parmi les Bnei Israël. Et on explique, le parmi eux est en redondance, parce qu'évidemment, si les Bnei Israël fabriquent une résidence pour Hachem, ben, il sera parmi eux. Et ça veut dire qu'en réalité, Hachem dit, je résiderai dans le cœur de chacun. C'est-à-dire, vous allez me construire une résidence dans laquelle, d'une certaine manière, je ne résiderai que si je réside aussi dans le cœur de chacun. Résider dans le cœur de chacun, ça veut dire que tu ne peux jamais te considérer comme hors de la présence d'Hachem. C'est ça, résider dans le cœur de chacun. C'est comme si partout où on va, eh bien, on est dans le Beit HaMikdash. Parce que je suis toujours dans la situation dans laquelle je serais si j'étais dans le Beit HaMikdash. Hachem est censé résider dans mon cœur. Dans mon cœur, ça veut dire toutes les décisions que je dois prendre, je dois les prendre en pensant, j'agis devant Hachem. Je pense, je parle, j'agis devant Hachem. En d'autres termes, le Mikdash n'est pas un temple. Parce que le propre d'un temple, c'est d'être la résidence du Dieu en question, celui pour lequel on a construit le temple, et il réside là, il ne réside pas ailleurs. Et l'accent, il est mis sur le fait que ça ne fonctionne pas comme un temple. Et si tu le fais fonctionner comme un temple, alors Hachem dit, j'en ai rien à faire. Ça ne m'intéresse pas. Et c'est comme ça qu'on a perdu les Beit HaMikdash, les deux qu'on a eus, parce qu'on les a considérés comme des temples. Parce qu'on s'est conduit à l'extérieur sans tenir compte de ce qu'on était en permanence, d'une certaine façon, dans le Beit HaMikdash. Ça, c'est, on peut dire que c'est pour nous aider. C'est presque un pense-bête ou quelque chose pour nous aider. Nous aider de temps en temps, on a besoin de voir quelque chose de très concret. Hachem est là. Ah oui, mais c'est pas seulement là qu'il doit être. Tu dois faire un travail pour le mettre dans ton cœur. C'est comme si Hachem disait, bon, je suis là pour vous rappeler à tout moment que vous devez veiller à ce que je sois dans le cœur de chacun. Ah non, c'est... Oui, enfin bon, si vous voulez, vous voyez bien que les termes qu'on utilise, que si vous dites Beit HaKnesset, c'est un lieu de rassemblement, l'accent n'est pas mis sur autre chose. Si vous dites Shul, ça veut dire c'est une école. D'accord ? C'est donc, l'accent est mis ou sur l'étude, ou sur le rassemblement des gens. On ne dit pas que c'est un lieu de présence d'Hachem. Et pourtant, on te dit, tu dois considérer que tu es devant Hachem, etc. Là-bas, on dit que... Oui, mais bien sûr qu'il est. Il est là, mais on n'appelle pas ça un lieu de présence d'Hachem. Les termes que vous avez vous-même utilisés, les deux termes, ne font pas de référence à Hachem. On ne dit pas que c'est un temple. Les juifs réformés, ils ont fabriqué les temples. Ils voulaient faire comme les chrétiens, fabriquer les temples. Ils disent, c'est le temple machin, le temple truc, comme ça. Chez nous, ça n'existe pas. En vérité, c'est pas juif. Il n'y en a pas. Parce que l'idée de temple est fausse. C'est déjà limite ce qu'on fait ici dans justement cette toute cette procédure de Kippour est déjà limite. Parce que quelque part, il y a presque de l'ambiguïté dans l'affaire. Alors, il revient à la question qu'on avait posée. Qu'est-ce que ça veut dire que Hachem dit à Aaron, ce que Rashi dit, il dit, quelque part, souviens-toi, tes fils ont désobéi, sont là côté la vie. Alors, fais ce que je te dis, et je te mets en garde. Si tu ne fais pas ce que je te dis, ça te coûtera la vie. C'est très surprenant, parce que pour nous, on a quoi, cette impression. Nous, on est vexés pour Aaron. Quoi. Je sais pas. Vexés pour Aaron, que ça veut dire... Est-ce qu'il a fait de mal à Aaron pour que tout à coup, Hachem lui parle avec des menaces pareilles, attention, si tu ne fais pas ce que je t'ai dit, ça ira mal pour ton matricule. Je veux dire, c'est un peu insupportable quasiment de parler de la sorte à Aaron, pardon. Justement, lui, pourquoi c'est Rabbi Elazar ben Azaria quand il fait son machal là? Alors, si vous voulez, comme toujours, quand les Chachamim m'amènent un machal et qu'ensuite on nous traduit quasiment le machal en disant eh ben ici c'est ça que ça part, on doit toujours se demander mais alors à quoi m'a servi le machal? Si finalement tu traduis tout du machal, tu dis que finalement Aaron c'est le malade auquel on a donné l'avertissement, et plutôt que quelqu'un auquel on n'a pas donné l'avertissement, donc voilà. Il avait qu'à dire, bon, finalement, il y a une allusion qui est faite à Aaron de la mort de ses fils, parce qu'ils ont désobéi, et donc. On le met particulièrement en garde. Ça ne résout pas la question que j'ai posée initialement, mais pourquoi est-ce qu'il a donné un machal? Je me demande toujours, quand il y a un machal, c'est que, je pense que vous serez d'accord, si on utilise un machal, si on utilise une parabole, c'est qu'on veut dire par la parabole quelque chose qu'on ne peut pas dire directement. Sinon, tu n'as qu'à le dire directement, c'est plus efficace. C'est que tu utilises une image sur laquelle tu peux dire des choses que tu ne peux pas dire sur la situation, c'est ce qu'on appelle le nimshal, sur la situation que tu veux clarifier. Tu ne peux pas le dire directement. Alors qu'est-ce qu'on a gagné avec ce machal des deux malades, enfin, d'un malade qu'on a plus fortement mis en garde en lui disant si tu ne fais pas ça, tu vas mourir comme... etc. Pourquoi on ne pouvait pas directement dire la même chose? Hachem dit à Aaron, si tu ne fais pas ce que je te dis, tu mourras comme tes fils sont morts. Vous comprenez le problème? On n'a pas besoin de machal pour ça. Donc si on utilise un machal, c'est qu'il y avait quelque chose qu'on ne pouvait pas dire directement. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit directement? Qu'est-ce qu'on ne pouvait pas dire? Pourquoi on ne pouvait pas le dire directement à Aaron, situation? Pardon? On ne pouvait pas le rappeler la mort de ses enfants. Oui, pourquoi pas? Pourquoi par ce biais-là on peut le faire? C'est ça que vous pensez que les hommes à Nazaria, ce qu'ils voulaient faire, c'est ça, c'est trouver une formule plus douce. Bon, ben, c'est pas ici qu'il le lui dit, ça il le lui a déjà dit. Que vous mettez le doigt sur le point suivant, c'est-à-dire que dans la parabole, on lui dit si tu veux sortir de la maladie, il faut faire comme ça. Sinon, tu vas en mourir. Tandis qu'ici, chez Aaron, si tu fais ce qu'il faut faire, il n'est pas malade. Il n'y a pas de maladie. Donc, d'une certaine manière, on pourrait presque dire mais le machal, il n'est pas du tout adéquat. Il ne s'agit pas pour Aaron de sortir d'un état négatif. Il s'agit pour lui de ne pas tomber dans cette négativité, de ne pas désobéir. Alors, si maintenant vous allez jusqu'au bout de ce que vous dites, ça donne quoi ? Les fils. Non, je ne sais pas. Claire, vous devriez aller jusqu'au bout de ce que vous avez dit. C'est-à-dire cette différence que vous avez faite entre la maladie et le fait de ne pas venir à tout moment et de ne venir qu'à Kippour avec la procédure donnée. C'était ça qu'on ne pouvait pas dire directement. On ne peut pas lui dire directement. Dans son machal, il le dit, il envisage que ça tourne mal parce qu'il est déjà malade, le bonhomme. Le bonhomme est malade. Il lui dit, ben, si tu ne fais pas ce que je te dis, tu vas en mourir. Alors, est-ce que ça veut dire, est-ce qu'on est en train de dire qu'il y a quelque chose chez Aaron Peut-être. Peut-être que c'est pas seulement chez Aaron. Si on dit que toute cette histoire du Yom Kippour, toute cette procédure, etc., dans le Mishkan, si je considère que d'avoir reçu le Mishkan, on a reçu le Mishkan que parce qu'on avait fait le Vaudor. Et vous savez qu'il y a deux chitotes concernant le Vaudor, concernant le Mishkan, ou bien effectivement on a reçu le Mishkan à cause du Vaudor, comme si Hachem avait dit bon, vous n'êtes pas capable de vous débrouiller sans Vaudor, sans le Vaudor, donc sans quelque chose de concret, je vais vous donner quelque chose de concret. Et si on dit ça, alors le Klal Israël est malade. Là, Israël est malade, il n'est pas capable de vivre dans l'abstraction, il est obligé, il a montré, il avait besoin en passant par le Vaudor, il a montré qu'il avait besoin de quelque chose de concret. Et donc, du coup, toute la procédure, effectivement, avec son ambiguïté, etc., tout ça, ça vient de quoi? Tout ça, ça vient de du Vaudor. Donc il lui dit, le Klal Israël, il est malade. Tu représentes le Klal Israël à ce moment-là, donc tu es malade. Et maintenant, le risque, c'est justement, comme vous avez dit, dans toute cette procédure, c'est tolérance zéro. Donc il n'y a aucune tolérance, comme il lui a dit au malade. Si tu ne fais pas exactement ce que je te dis, tu vas en mourir. C'est-à-dire, j'ai été obligé de vous donner le Mishkan par votre faute. Mais du coup, il y a un danger avec le Mishkan. Ce que je vous ai décrit sur le Mishkan, le Beth Amikdash, c'est ce danger qui fait qu'effectivement, on n'a pas réussi. Les deux Beth Amikdash qu'on a eu, on les a perdus. Ils ont été détruits. Pour cette raison-là, à cause de ce danger qu'il y avait. Venir à tout moment, c'est oublier, en quelque sorte, qu'il faut fabriquer de la distance. C'est l'homme qui doit mettre la distance. Il y a une banalisation, si vous voulez. Si on peut venir tout le temps, alors c'est banalisant. Et donc, toute la notion de kavod, elle est construite. Le kavod, ça ne rayonne pas tout seul. C'est une construction. Dans le Mishkan, vous savez bien que le Mishkan, il était régulièrement donc décomposé pour le transport, quand le Bnei Israël allait d'un endroit à l'autre, et quand on arrivait à l'endroit où on allait camper, on remontait le Mishkan. Quand on décomposait le Mishkan, quand on le démontait, il y a toute une procédure. Quand vous démontez tout ça, vous démontez toute la magie, tout le charme du Mishkan. Finalement, c'est quoi le Mishkan? C'est un peu de bois, un peu de peau d'animaux, un peu de tissu, etc. C'est tout, c'est ça. Alors, personne n'avait le droit de venir voir quand on démontait le Kodesh. Et même ceux qui allaient le transporter, ils faisaient un peu comme les fils de Noach ont dû faire. Quasiment, on prenait un grand drap et on enveloppait tout ça sans le regarder. En fait, on l'enveloppait pour le transport, pour ne pas voir la chose dans sa... La chose démontée, réduite à ce qu'elle est. Enfin, toute construction, si vous voulez, c'est comme certaines fleurs qui ne supportent pas la lumière. Elles se fanent si elles sont à la lumière. Eh bien, le Mishkan, d'une certaine manière, il fanait. S'il était à la lumière, ça, c'est finalement, c'est que ça. Non. On peut aussi décrire quelqu'un qui est très très beau, mais si tu dis finalement, c'est quoi un corps humain, un très très beau corps humain, c'est quoi? C'est beaucoup d'eau, un peu de graisse, un peu de poils. Si tu fais cette présentation des choses, il n'y a plus de charme. Donc il ne faut pas, il y a des choses qui ne peuvent pas être mises en pleine lumière. Parce que quand tu mets en pleine lumière, tu enlèves toute la magie, tout le charme de la chose. Et donc, ça veut dire que c'est une construction. C'est moi qui construis le charme de la chose. Par elle-même, si je le regarde tel que c'est, ben c'est pas, de quoi... Mais par contre, j'investis les choses. Je le porte à bout de bras, je lui donne du kavod, je lui donne du poids. Attendez, pour l'instant. Alors, ce qui se passe avec le Mishkan, comme je vous ai dit, c'est d'une certaine manière ce que dit Rabbi Elazar ben Azaria, me semble-t-il, c'est le clan Israël est malade. Et donc, si maintenant tu viens tout le temps, on va banaliser cette chose-là, et donc ça ne jouera pas le rôle que ça doit jouer. C'est un rôle à jouer. Si tu le banalises, il ne pourra plus jouer son rôle. Et du coup, il n'y aura que le côté négatif. Tu vas mourir, c'est-à-dire le clan Israël va en mourir. Le clan Israël va mourir de cela. La question, c'est en quoi est-ce que on peut rattacher ça à la démarche de Nadav et Avihu? Eux sont morts de quoi, Nadav et Avihu? Justement, c'est pour ça que je vous ai dit au début. Ils sont morts de ce que il pensait qu'on pouvait passer tout de suite à la vitesse de croisière. Mais dans la vitesse de croisière, il y a cette, ce risque qu'on oublie Hachem. Et si Hachem a voulu frapper un grand coup, si on peut parler comme ça, à l'inauguration du Mishkan, en faisant descendre un feu qui viendrait du ciel, pour que les Bnei Israël se souviennent toujours, c'est vrai, le Mishkan, c'est nous qui allumons, etc., mais le premier feu, c'est Hachem qui l'a envoyé, il est venu du ciel, pour donner une dimension particulière à ce Mishkan. Et eux, parce qu'ils voulaient absolument être adultes, en quelque sorte, et ils étaient à ce niveau-là. Mais ils n'ont pas tenu compte de ce que, même quand on est à un certain niveau, on est obligé de s'astreindre à certaines choses. Parce que l'être humain, les choses du quotidien, il a tendance à les banaliser. Pas nous. Il y avait un grand maître aux États-Unis, Rabbi Victor Miller. C'était un Américain qui était allé dans les grandes yeshivotes d'Europe de l'Est, etc., qui était un grand éducateur. Et c'est quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, et il a enseigné toute sa vie, pour qu'on magnifie en quelque sorte les bontés d'Hachem. Tout ce que le monde nous donne de beauté et de bonté. Nous, dans la Amida, trois fois par jour, on parle de Niflaotecha, de Ramodim, de Niflaot, des choses extraordinaires, de Cholium, en tout moment que tu nous donnes. Bon, ça passe un peu vite, hein, c'est vers la fin. Comme ça. Il faudrait laisser résonner en nous, effectivement, tout ce qu'Hachem nous donne. Bon, on considère que c'est normal, puisque en fait, c'est seulement quand ça ne marche pas bien que tout à coup on se met à dire c'est quand même... mais tant que ça marche bien, bah très bien, on n'en fait pas une grande affaire. Mais à chaque instant dans notre vie, à chaque instant et à chaque les choses se passent, et si ça bougeait d'un nanomètre ou d'un nanogramme ou tout ce que vous voulez, tout cet équilibre serait par terre. Donc, sans arrêt, les choses, c'est pas, on ne peut pas faire exactement comme on veut. Et certains écarts sont mortels, même s'ils sont très très petits. Les nissim qui est en permanence dans le fonctionnement d'un corps humain, dans le fonctionnement du monde. Il suffit d'un petit dérangement là, maintenant on vient de voir un petit volcan qui s'est énervé un peu là, comme c'était la région de l'Atlantique Nord, c'est un nœud de circulation d'avions, etc. Je serais arrivé en Papouasie ou ailleurs, je pense que ça aurait fait deux lignes dans les journaux, et encore, peut-être dans l'actuvi, mais ça fait deux lignes, ici seulement, mais c'est à l'endroit un des endroits du monde les plus critiques, ça a fichu tout par terre. Imaginez, tout ça, c'est une question d'équilibre, c'est un tout petit peu déséquilibre. L'écorce terrestre, etc. Fini, tout est par terre. C'est l'énissime de tous les instants, mais on n'est pas conscient. Donc ce qu'Hachem dit à Aaron, d'après ça, d'après ce que Rabbi Nazaria a compris dans nous dire, si j'ai bien compris le Midrash, c'est ça justement. Le clan Israël est malade. Le Mishkan, c'est la résultante de la maladie du clan Israël. Et du coup, tu es obligé de prendre quelque chose, et si tu ne fais pas exactement, s'il ne joue pas son rôle parfaitement, le Mishkan, le clan Israël est perdu. Et c'est ce qui nous est arrivé, on a perdu deux fois. On est encore en galoute à cause de ça. Après. Ah non, avant. Avant les maraglis. Est-ce que Moshe Rabbeinu a obtenu un sursis. Hachem, quand on a fait le veau d'or, Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, laisse-moi, je vais les détruire. Et sous-entendu, je continuerai avec toi. Et Moshe Rabbeinu a dit, moi, je ne suis pas partant. Ou tu leur pardonnes complètement, ou je ne suis pas partant. Donc Hachem lui a pardonné au connaissant. Mais c'était sous forme d'un sursis. Et le sursis est tombé avec Osé Mraglim. Alors, pour nous aider, Hachem donnait le Mishkan, donnait le Mishkan. Comme vous avez demandé avant pourquoi on a besoin du Mishkan, pour nous aider à ce que la présence divine soit en permanence. Normalement, elle aurait dû être en permanence suite au passage de la mer, suite à la sortie d'Égypte, suite à Matan Torah, etc. Okay. Ça, c'est pas fait. Oui, mais pour lui donner ça. Oui, mais tu n'as pas besoin d'aller à cet endroit-là tous les jours. C'est le travail intérieur. Il faut se rapprocher d'Hachem, mais en travaillant sur soi. Si tu vas tous les jours, alors bon, on n'est plus impressionné. Essayez de regarder dans votre vie ce que vous avez vu, je sais pas, un spectacle ou quelque chose qui vous a impressionné. Quand vous le voyez pour la deuxième, la troisième, la quatrième fois, ça perd de son charme ou ça perd de son caractère impressionnant, etc. La banalisation du quotidien, c'est ça le problème. Vous voyez, pourquoi est-ce que... C'est tout, toute la vie de couple, toute la vie de la société, etc. Il y a plein de choses qui sont extraordinaires, et quand ça se répète... pas même des choses complètement triviales, banales. Quand vous avez fait un plat faramine extraordinaire, bon, tout le monde s'extasie, mais maintenant si vous le faites régulièrement, bon, oui, d'accord, c'est bien.
Oui, mais pas le
quand on
prie.
Oui. Ça, c'est tout le travail, justement. Justement, il faut que ça ne devienne pas de la routine. Mais justement, là-bas, il te dit, si tu veux que ça t'aide, réellement, comme je te le donne que, la tefila, on doit la faire. Le Mishkan, on n'avait pas besoin de lui. Si on n'avait pas fauté, on n'aurait pas eu besoin. Je te donne ça pour que ça t'aide. Alors, il faut que ça garde un caractère particulier. Si on banalise la chose, ça n'aura plus d'effet. Oui, c'est ça. Il y a un côté impressionnant, un côté... ben oui, c'est sûr que... Pour que ça m'impressionne et que je rafraîchisse en quelque sorte ma démarche.
Quelque part comme le veau d'or,
le veau d'or, c'est pas son caractère extraordinaire qui les a fait fauter. Ils ont fauté parce qu'ils ne savaient pas comment on allait le servir, etc. Au départ, ce n'était pas une idole. Mais il ne faut pas que ce soit son caractère, la nouveauté. Il venait de Mitzrayim ou des idoles, il y en avait plein. Pardon ? Bon, ils parlaient. Ils avaient l'habitude des choses qui... Ça parle. C'est tout. Pardon, les choses qui sont. Oui. Oui, c'est ça, pour ça que je dis, il ne faut pas y aller. Il faut. Tu vas artificiellement faire les choses pour que ça ne soit pas banal. Et la Torah, elle te le demande de le faire. La Torah, elle nous dit, dans le modernisme, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire que quasiment, on fait un travail de considérer comme de considérer le réveil comme triatametim. Bon, c'est-à-dire c'est une façon de essayer de se représenter ce que sera triatametim, ce qu'est la résurrection. C'est vu comme une résurrection, c'est ce qu'on dit dans le moderni. Et bon, c'est vrai que c'est difficile, tu as raison, c'est difficile de ne pas considérer que oh, c'est vrai, je me suis réveillé comme tous les matins. Jusqu'au jour où on ne se réveille pas, je veux dire, mais à ce moment-là, c'est trop tard pour. Mais il faut lutter contre ça, il faut lutter contre la banalisation. Donc il y a c'est-à-dire ce qui se passe, c'est, ben, si vous voulez, c'est comme un médicament. Si tu le prends pas exactement comme il faut, il peut être encore plus mauvais. Il est là, mais si tu le prends exactement en tenant compte des prescriptions médicales, mais si tu le prends autrement, trop peu ou trop, etc., éventuellement, il peut avoir des conséquences absolument désastreuses. Il est le médicament, mais le médicament, il n'est pas que positif. Il y a au moins des effets secondaires, par exemple. Ah, on peut toujours faire de l'homéopathie, d'accord.
Non, mais Kachem réside en projection de notre évolution, et Kachem réside en nous, et qu'à ce moment-là, on le sent et on le voit partout, c'est nous qui pouvons nous transformer.
Bien entendu. Mais Hachem nous a donné une béquille, en quelque sorte. Visiblement tu n'y arrives pas, je te donne un peu d'aide. Mais l'aide que je te donne, c'est pas de la magie, c'est pas que puisqu'il y a ça, automatiquement tu auras Emouna, etc. Ça ne marche pas comme ça. Et au contraire, c'est comme le médicament. Si tu ne l'utilises pas selon les règles, ben il va te faire encore plus mal que si tu ne l'avais pas pris du tout. Alors c'est ça le paradoxe, c'est que comme on n'a pas su le gérer, c'est comme si on s'est dit, ben finalement les effets secondaires sont trop grands, et bon, on n'est pas capable de gérer ça, alors on nous l'a enlevé, parce que finalement ça se retournait contre nous, quoi. Oula. Alors le problème, c'est comme ça, c'est que nos maîtres ont compris qu'effectivement il y a un problème. Alors ils ont dit, il y a un passage qui dit « Uneshalma parim sfatenu ». C'est-à-dire, on va remplacer les taureaux par nos lèvres, par ce que nous allons dire. C'est-à-dire qu'au lieu d'approcher des corbanotes, on va lire et étudier le texte qui parle de ces corbanotes. Essayer d'intérioriser à partir du texte. Et on dit, c'est ce qu'ils disent, on va payer Shalma Parim Sbatenu, ça veut dire on va remplacer effectivement les taureaux par ça. On va faire le travail à partir du texte. On va remplacer par l'étude et la prière le travail qui se faisait dans le Beth Amikdash. Si vous voulez, tout ça c'est difficile à comprendre, mais on en avait déjà parlé. Le fait que dans le Beth Amikdash, ce soit les Kohanim ou Akipour, le Kohen Gadol qui fasse tout le travail, et que nous on est là à attendre quasiment. C'est vrai qu'on paye un peu, il faut un korban à apporter. Qu'est-ce qu'on faisait qu'on avait un korban à apporter? Essentiellement, bon, on payait. Je paye, j'achète un animal. Et je l'amène à la porte, et je le donne au Kohen et je lui demande de faire le travail. Et c'est lui qui fait le travail. Alors bien sûr, je suis censé spirituellement m'identifier avec ce corban que j'ai apporté. Mais finalement, on fait le travail pour nous. Le Kohen Gadol fait le travail. Aujourd'hui, il n'y a plus de Kohen Gadol. Donc je suis obligé de faire le travail tout seul. Chacun d'entre nous est obligé de faire le travail. À Kippour, il n'y a personne qui fait le travail pour vous. Vous devez le faire. Si vous ne le faites pas tout seul, il ne se passe rien. Le fait qu'il y ait un chef d'orchestre, c'est un chef d'orchestre. Mais il ne remplace pas du tout le travail personnel. Il ne remplace que ceux qui ne savent pas lire du tout. Si quelqu'un ne sait pas lire, alors ce que dit le Schlertzibourg, ça vaut pour lui. Mais celui qui sait lire, qui sait un peu lire, ou en français, il peut lire en français, il doit lire en français. Il doit faire le travail tout seul. Ce que faisait Aaron, il faisait ces fameux trois vidouim, le Hachamnou, Bagadnou, ou le Alchet, si vous voulez, qu'il faisait, il le faisait pour tout le clan Israël. D'une certaine manière, on n'avait pas besoin de le faire. Aujourd'hui, si tu ne le fais pas, ça ne sera pas fait. Donc, d'une certaine manière, on a remplacé, finalement, c'est du bon, il faut pas faire faire. Parce que si on fait faire, alors on devient passif. Donc, on a changé notre fusil d'épaule. Quelque part, c'est une nouvelle façon de faire. Il faut se débrouiller tout seul. Alors, Hachem nous aide, puisqu'il nous a dit, voilà, vous allez remplacer, voilà, je vous donne le remplacement. C'est juste, vous voyez, il n'y a pas de punition, j'aime punition. C'est toujours éducatif. Et donc, s'il s'avère que par ce chemin-là, on n'y arrive pas, il va nous donner un autre chemin. Un chemin que les hommes eux-mêmes vont fabriquer par leur étude. C'est pour ça que, d'une certaine façon, on peut dire que, hors de l'étude, je ne vois pas très bien comment on peut se débrouiller. De ce point de vue-là, le traditionnalisme, si vous voulez, il n'a pas de très beaux jours. Certaines gens peut-être. Ouais.
Moi je serais pas là s'il n'y avait pas eu le professionnel qui a maintenu l'existence, la conscience de que quelque chose était là, qu'à chaque fois.
Pardon ?
Pour combien d'autres je suis plus là ?
Bien, on va s'arrêter là. Il y a beaucoup plus que ce que j'ai raconté.
Je voudrais juste une dernière question. Quand on dit que la première a remplacé les temps valeurs, alors finalement, qu'est-ce qui a remplacé cette distance de l'être contre le cavode?
Comme on n'a pas besoin de construire, c'est toujours le cavode d'Hachem. C'est la notion de cavode d'Hachem. Mais le cavode d'Hachem, essentiellement, aujourd'hui, pour, enfin, ça a toujours été, mais d'une certaine façon, comment on ça dit sur la Yira, mais sur le Kavod, c'est la même chose. Rabbi Akiva, il a osé dire que d'une certaine manière, là, c'est marqué que on doit honorer, mais on doit aussi révérer et craindre Hachem. Et Rabbi Akiva a dit, comment est-ce que ça s'exprime aussi? Ça s'exprime par la crainte révérentielle des Talmidei Chachamim, de ceux qui sont, disons, un Sefer Torah vivant. Les gens, comme dit Rava, les gens, ils donnent beaucoup de kavod à Sefer Torah. Mais lui, il disait, ces imbéciles, ils donnent un kavod à un Sefer Torah qui est un rouleau, et quand il y a un Sefer Torah vivant, ils lui donnent aucun kavod. Ils n'ont rien compris. Le Rabbi Akiva, c'est beaucoup plus important qu'un Sefer Torah. Donc les Talmidei Chachamim, les sages, bon, c'est ça qui nous est, quand on a encore la possibilité de le faire, le kavod comparé à ce qui est comparé au kavod d'Hachem, c'est le kavod qui est dû aux parents. C'est marqué Ukash kvodam l'kvodam makom. On a comparé le kavod qui est dû aux parents à celui qui est dû à Hachem. Et aux parents, c'est un peu plus facile que de donner du kavod à Hachem. C'est un peu plus facile. Concrètement, c'est plus concret, si vous voulez, de donner du kavod aux parents, du poids aux parents, pour qu'ils jouent leur rôle. Exactement comme on doit donner du poids à Hachem, pour qu'il joue son rôle. Tant qu'Avraham Avinu n'a pas fait connaître Hachem comme Meler dans le monde, Hachem n'était pas Meler. Il n'y a personne qui le recevait comme roi. Donc ça dépend des hommes. Oui, ils n'ont pas donné le kavod qu'il fallait donner à Hachem, au sens où ils ont pensé qu'eux savaient mieux ce qu'il fallait faire que ce qu'Hachem leur disait de faire. Justement, si sanctifier la sainteté, le niveau zéro de la sainteté, c'est la séparation. Et donc, il marque sa séparation, on enlève. C'est ce que je disais avant, c'est Moshe Rabbeinu qui dit, on va enlever les fils du bâti, donc la relation sera directement avec Hachem. On n'aura plus besoin de nous. Manque de kavod d'Hachem, si on veut, dans la mesure où on pense que Hachem dit qu'il faut faire comme ça et eux ils font autrement. Là, je crois pas qu'on peut se tromper dans les souvenirs, mais bon. Non, c'est ce que je vous ai dit, c'est que eux voulaient aller directement à la phase vitesse de croisière. Alors c'est un manqué de période, parce qu'Hachem avait, Hachem ne leur a pas dit, on avait dit que là-bas il n'y a aucune tolérance du moindre écart. Je t'ai pas dit de la porter. Hacher Lot Tziva, c'est un feu qui n'a pas été demandé. Tu n'as pas apporté au bêta là-bas un feu qui n'a pas été demandé. C'est pas une auberge espagnole où chacun amène ce qu'il veut. Ils étaient très très grands dans tous les domaines. Ils étaient très grands. C'est par grandeur qu'ils ont pas compris que le clan Israël n'était pas encore à ce stade-là. Parce qu'en vitesse de croisière, c'est comme ça qu'on fait. Ce sont les hommes qui amènent le feu. En temps normal, au Beit HaMikdash, c'est les hommes qui allument le feu. Il ne vient pas du ciel tous les jours. Donc ils ont dit, bon, on va apporter, voilà. On n'a pas besoin qu'Hachem, bien sûr qu'on est sans arrêt en présence d'Hachem. Ils étaient certainement en présence d'Hachem dans leur tête en permanence. Eux n'avaient probablement pas besoin de cette chose-là. Mais le clan Israël en avait besoin. Et donc on ne peut pas être les leaders du clan Israël si on est pas capable d'entendre ce que le clan Israël a besoin. Oui, le problème c'est que c'est pas le. Effectivement, si on fait ce qu'on veut, le problème c'est on a le droit d'embellir ou des choses comme ça. Ça on peut. Qu'est-ce que vous voulez dire qu'on fait ce qu'on veut ? Je n'ai peut-être pas bien compris ce que vous voulez dire. Dans le Ido Mitzvah, on a le droit.
Non, justement, aujourd'hui, on a le droit. Mais au temps du Mishkan.
Au temps du Mishkan, en dehors du Mishkan, on pouvait aussi. Ah. Mais dans le Mishkan lui-même, parce que la résidence d'Hachem, Si vous voulez, quand, dès que vous dites résidence d'Hachem, si vous réfléchissez un tout petit peu, vous dites, mais de quoi tu parles? Qu'est-ce que ça veut dire résidence d'Hachem?
C'est par le fait qu'il nous demande de magnifier ses bontés, sans pour autant magnifier sa présence elle-même, c'est ça? C'est, on ne pouvait pas faire demi-tour sur sa présence elle-même, mais on veut faire un travail de magnifier ses bontés.
Oui.
C'est très dur.
Oui. Ça ne peut pas se traduire en gestes qui modifie le Mishkan. C'est ça la distance. Oui.
Et
il n'y a pas de Mishkan, il n'y a pas cette. Donc la distance, le kavod, c'est de la distance. Il n'y a pas de kavod, il n'y a rien si il n'y a pas de distance. On ne peut pas honorer si on est complètement à côté. Il faut lui laisser de la place. Pardon, on demande Ira et Ava, oui, c'est juste.